Bonjour Kotomi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Je m'appelle Kotomi, j'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis dans le monde du rétro gaming. Voilà quoi, en gros, voilà.
D'accord, et donc au niveau du rétro gaming, on peut dire que tu es notre, t'es surtout connu pour tes modifications de console. Il y en a qui parlent de tuning. Pour toi, qu'est-ce que c'est exactement ce tuning de console? C'est surtout l'aspect jackie ou ça va un peu plus loin que ça?
Je pense que moi, je suis plutôt dans une optique customisation, tuning, vraiment axé sur le rétro et plus dans un souci de l'édition, de façon comme si Nintendo ou Sega ou n'importe quelle marque aurait pu sortir sa console sur un thème donné en fait.
D'accord. Parce qu'on peut dire que tu as sorti des NES modifiées aux couleurs de Mega Man, Kirby, Zelda et tout ça. Donc justement, comme tu modifies les consoles, tu as bien dû commencer à un moment donné. Sur ton blog, on voit que ça remonte à novembre 2005. Ça remonte à combien de temps en fait en réalité?
Oui, en fait, sur le blog, ça a débuté. J'ai ouvert mon blog en novembre 2005, mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus ancien. J'ai dû commencer en 2003 sur le forum de Nespa, où j'avais vraiment une session, où j'avais ouvert une session où je présentais mes travaux. Et en parallèle, sur d'autres sites aussi, comme Tuning Console ou même PCB World à la grande époque quoi. Mais ça a vraiment débuté en 2003 et avec le temps j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et que je me suis dit qu'il fallait vraiment un site où je pouvais présenter, où tout le monde pouvait venir plus facilement quoi.
D'accord. Et justement tu as commencé avec quelle a été même la toute première modification que tu as faite?
La toute première modification, ça a dû être une SNES pour la passer en 60 Hz, c'est pouvoir utiliser mes jeux américains et japonais sur la même console pour éviter les branchements, toujours changer de console pour jouer à un jeu différent ou mettre un adaptateur quoi. Ça était vraiment la première modification.
Donc c'était pas une modification esthétique, c'était vraiment uniquement technique?
Non, c'était uniquement technique. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit pourquoi pas pousser le vis plus loin et faire une peinture afin de faire une édition unique, un peu vraiment dans un délire vraiment console unique.
Et en console justement modifiée de façon esthétique, c'était laquelle la première?
La toute première, c'était cette Super NES, donc qui a été la Super NES Famicom. C'est vrai que comme c'était multi-support et avec les jeux Famicom, je trouvais que il y avait eu la Super Famicom, donc pourquoi pas faire la Super Famicom, mais vraiment aux couleurs de la Famicom, quoi. Donc,
Super Famicom.
Voilà, Super Famicom, Famicom. En gros, ça a été ça. Et comme il y avait les trois boutons, en fait, le bouton Power, Reset et Eject, alignés, comme sur la Famicom, en fait, on avait le bouton Power d'un côté, on avait un espèce d'Eject à coulisses et un autre bouton pour le Reset. Je me suis dit, c'est exactement pareil, donc on pouvait faire les trois boutons rouges et la console blanc-jaune, la blanc-crème, avec le fond rouge, quoi. Et c'est vrai que ça s'y prêtait vraiment bien, quoi.
Donc, c'est celle que tu présentes, que tu présentais aujourd'hui?
Ouais, c'est celle qui est là aujourd'hui, la toute première console que j'ai faite, quoi.
D'accord. Et donc au début justement on a vu que tu modifiais donc pas mal de NES, des Super NES et dernièrement on t'a quand même vu pas mal tripatouiller les DS avec les DS Game & Watch. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'orienter vers ces consoles là en particulier?
C'est vrai que je suis tombé vraiment amoureux de la DS, du gameplay, du renouveau Nintendo par ce biais là quoi. Et c'est vrai que Nintendo en sort lui-même des éditions spéciales. On a vu le Mario spéciaux, le machin, un peu de tout quoi. Donc je m'y suis mis aussi. C'est vrai que ça s'ouvre à un public qui est plus large et qui n'aurait pas été intéressé par une NES ou une Super NES quoi.
D'accord. Maintenant, quand on voit justement les modifications que tu apportes aux consoles, enfin, comment tu t'y prends, parce que pour partir de la console de départ et arriver au résultat final, tu as, avant d'y travailler, tu as déjà ton idée en tête, ce que ça va donner, ou tu essaies de diverses approches pour modifier tes consoles, ou
ouais, en fait j'ai une idée de départ que je travaille dans ma tête pendant une semaine, deux semaines. Je me dis tiens, ça serait bien ça. Et puis je mets ça sur papier, je fais un petit croquis vite fait pour voir ce que ça peut donner à peu près, les modifications, si c'est des découpes, des machins, pour voir comment ça pour voir l'harmonie des formes. Et c'est vrai que je fais pas beaucoup de recherches graphiques sur papier, c'est vraiment un croquis vite fait et je me mets directement à la réalisation en fait, hein.
D'accord, vraiment... Et cette réalisation, tu t'y prends comment d'habitude en général parce que je vois, enfin, on a vu que tu pouvais t'appliquer diverses couches de peinture. De temps en temps, tu retravailles même les matériaux.
Ouais.
Donc à ce niveau-là, ça se passe comment justement au niveau des étapes? Ça dure combien de temps?
Les étapes, alors, il faut compter de 8 à 16 heures pour réaliser une console entièrement. Donc ça commence vraiment démontage complet de la console. Puis après, s'il y a des ouvertures à effectuer, j'effectue toutes les ouvertures. Après, il y a un gros travail de nettoyage, ponçage, masticage, ponçage encore. Et on passe à la peinture. Donc ça se passe à base de peinture à aérosol. Le plus souvent, c'est de la peinture à aérosol. Ou vraiment à l'aérographe ou ces choses-là, quoi. Et c'est appliqué en passes successives avec des temps de séchage entre chaque passe. Et il faut compter 3 à 4 couches de peinture fine pour avoir un résultat comme j'obtiens, quoi.
D'accord. Et tu travailles justement avec du matériel, parce que tu parles d'aérosol, c'est des aérosols que tu trouves en magasin, ou c'est vraiment du matériel professionnel avec des jets enfin, forte pression?
Disons que je me fournis un peu partout. Vraiment en magasin de bricolage, en magasin de modélisme, un peu partout pour piocher les teintes que je recherche. Et donc c'est vraiment du matériel grand public. J'ai même utilisé des bombes de graffiti, vraiment un peu de tout, quoi. Donc c'est vraiment avec ce que je trouve, avec les teintes que je trouve.
D'accord, t'as pas un atelier particulier avec du matériel de taré
J'ai un peu de matos pour faire des découpes, c'est sûr que j'ai un peu investi dans du matériel, vraiment dans des j'ai eu par exemple une scie de modélisme pour vraiment couper nickel.
Et que t'as acheté uniquement pour faire ces modifications?
Voilà, ouais.
D'accord.
Exactement.
Sinon, pour en revenir justement aux créations en elles-mêmes, une fois qu'elles sont terminées, parmi celles que t'as faites, t'en as certaines que tu préfères, j'imagine, parmi d'autres?
Ouais, c'est sûr. Celles qui m'ont le plus marqué, ça a été la NES Kirby, qui était. Moi, j'ai adoré, quoi, faire ce projet. Ça a été vraiment le truc que j'ai fait jusqu'au bout, vraiment dans mon idée, quoi. Il y a eu la Pearl White, la 64 toute blanche avec avec les éclairages bleus. Et celle-là,
Celle-là, c'était une commande.
Celle-là, c'était une commande, exactement, oui. Mais j'ai eu complètement carte blanche pour la réaliser. Donc, il m'a envoyé le propriétaire m'a envoyé sa 64 sans aucune idée. Il dit, voilà, je te donne ma 64, fais-moi quelque chose avec. Donc, et c'est vrai que, bon...
Et qu'est-ce qui t'a donné, justement, cette idée blanche? Parce qu'elle était noire et tu t'es dit, on va faire l'inverse, ouais. Ou...
Non, c'est en voyant vraiment le... les standards actuels du design et de la décoration, c'est vraiment la mode des iPods, les Mac, c'est vraiment en ce moment là,
c'est du blanc, quoi.
Ce qui cartonne, machin. Donc c'est vrai que c'est du blanc maintenant, tout est blanc nacré, machin. Donc pour la mettre au goût du jour, c'est vrai que le blanc, ça se prêtait au mieux, quoi.
D'accord. Et justement, t'as pas de mal à te séparer de ces consoles, justement, parce que ben, justement, la Pearl White, moi je la trouvais très belle. Et il y en a d'autres, justement, comme les Zelda, la GameCube Famicom, qui a un joli éclairage aussi. T'as pas de mal à te séparer de ces consoles, alors qu'au début, c'était juste des consoles standards et bateaux, et que finalement, tout le monde se rêverait.
Bah, c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'en séparer, mais il faut bien aussi... les vendre ou les donner, ou quand c'est des commandes, je les rends à leur propriétaire, mais c'est vrai que ça me fait mal, mais je peux pas tout garder non plus, parce que sinon mes placards sont pas assez grands pour tout garder, donc il faut que je m'en sépare, et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un petit déchirement, mais je me dis que peut-être qu'un jour je les reverrai, ou donc bon, voilà quoi.
Et tu t'en fais beaucoup pour toi, des modifications? C'est surtout des gens qui te le demandent.
En fait, je marche beaucoup à la commande. Ça me permet de pas garder les consoles. Et pour moi, ça, j'en fais 4 à 5 par an pour moi, que je fais pour mon plaisir, vraiment avec mes idées. Et où je peux aller vraiment jusqu'au bout des projets, parce que j'ai pas de limite de budget. Et je peux vraiment aller à fond dans les trucs, les lumières, les peintures. Donc je fais vraiment ce qui me plaît, quoi.
D'accord. Et concrètement, d'ailleurs, quand quelqu'un t'envoie une console et qu'il te dit « Vas-y, tu me la modifies et je sais pas comment faire », ça se passe comment? Parce que la personne peut te demander, il te laisse carte blanche, mais qui va raisonnablement au niveau du tarif, ou,
voilà,
il te laisse carte blanche aussi au niveau du budget et il paiera, quoi qu'il arrive, la somme que tu demandes d'aligner?
Non, disons qu'on se met d'accord déjà sur un prix à la base, de combien il est prêt à mettre. On discute un peu de ce qu'il voudrait avoir, donc on voit son budget, on voit ce qu'il veut, et après on va, quoi. Il y en a qui savent exactement ce qu'ils veulent, donc les couleurs, les néons, machin, et ils savent ce qu'ils veulent, donc ça c'est comme ça, quoi. Mais il y en a qui savent pas du tout, et bon, bah, c'est avec leur budget, on voit ce qu'on peut faire, quoi.
D'accord, mais suffit d'avance. Ok. Et il y a des... est-ce que toi, à ton sens, tu as raté justement des fois des modifications de console? Parce que bon, sur celles que tu vois, celles que tu exposes, a priori, ce sont celles quand même que tu as réussi. Mais est-ce qu'il y en a que tu finalement que tu réalises, mais tu les abandonnes parce qu'elles sont moches, ou...
Ouais, c'est arrivé souvent, oui, parce que en fait, je suis jamais satisfait de mon propre travail. Souvent je me dis j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. Et c'est arrivé avec la NES Tribal, c'est pour ça que j'ai fait une NES Tribal 2.0.
Parce que la première t'avais pas plu?
Ouais, mais la première m'avait pas du tout convaincu, et je la trouvais vraiment molle et laide, donc elle a été entièrement démontée, mise dans un coin, dans un carton, elle a accroupi dans un carton pendant plus de 8 mois, et puis bon, je me suis remis petit à petit, je me suis dit bon, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose.
Et donc tu as retravaillé celle-là pour faire la deuxième?
Voilà, j'ai retravaillé celle-là pour faire la deuxième, donc en fait elle a été entièrement décapée et toute repensée, quoi.
D'accord. Et donc là, bah, on parle justement des consoles que tu trouvais pas forcément réussies. Est-ce que justement certains de tes clients avaient eu la même sensation de cette déception de recevoir la console alors qu'ils s'attendaient à mieux, ou quelque chose du genre?
Non, j'ai jamais eu de clients mécontents de mon travail, et tout le monde a été plutôt... Non, j'ai jamais eu de retour de console ou de personnes qui m'ont dit « Non, en fin de compte, ça me plaît pas » ou... Non, tout le monde a été satisfait, je pense que... Ouais, j'ai jamais eu de retour, donc non.
Et en gros, t'en as vendu combien jusqu'à présent?
Ça doit être autour de... Bah, la plupart ça a été des commandes ou des ventes, et donc il faut voir les consoles qui me restent, il doit m'en rester une dizaine, donc j'en ai fait une 30 ou 40. Donc ouais, il y a 30 qui sont dans la nature un peu partout, quoi.
D'accord. Et donc là on a vu que tu parlais surtout du relocage de console, mais tu fais aussi les modifications, tu switches les consoles, tu rajoutes des sorties RGB, tu les dézones, c'est aussi, tu le faisais à la base pour toi, ou c'est parce que tu t'es mis à le faire parce que des gens demandaient par rapport à tes compétences particulières?
C'était en premier lieu pour moi, pour pouvoir avoir des consoles multi-zones et n'avoir qu'une console branchée sur la télé et mettre tous mes jeux dedans. Mais c'est vrai qu'après j'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes, donc j'ai commencé à écrire des tutos pour NESPA en premier lieu, et maintenant pour Obsolete Tears, et pour permettre aux gens de réaliser eux-mêmes leurs modifs. Mais c'est vrai qu'il y en a qui touchent pas du tout en électronique, et comme ils me disent souvent, ils m'envoient des mails, j'ai deux mains gauches, aide-moi. Et donc je leur propose de m'envoyer leur console, et moi je réalise leurs modifications, quoi.
D'accord. Et parce que j'avais vu, donc tu mettais des tutoriaux à disposition sur ton blog, mais il y a certains tutoriaux apparemment que tu as améliorés. Les modifications de console, c'est toi-même qui les recherches ou c'est tu as trouvé des tutoriaux à la base que tu as retravaillé, que tu trouvais mieux, qui pouvaient être améliorés?
Ouais, disons qu'il y a eu les deux. Il y a eu les tutoriaux que j'ai moi-même potassé sur d'autres sites, SegaCore ou même sur NESPA, il y avait des premiers tutos qui avaient été faits, ou GameSX qui est vraiment un site génial, plein d'idées. Et moi j'ai retravaillé à partir de ça et j'ai amélioré certains tutos qui existaient déjà, comme le 32X qui était sur SegaCore. Et qui n'était pas, moi je trouvais qu'il n'était pas facile à réaliser. J'ai amélioré un peu le système. Et il y a d'autres tutos, par exemple le multiméga qui n'avait pas du tout été traité, ou la nomade qui n'a pas du tout été traité, et que j'ai vraiment recherché par moi-même à force de chercher.
Mais la nomade est zonée ou pas? Parce que justement moi j'ai des jeux européens, je les ai fait passer dessus sans problème.
Disons qu'il y a des... La Mega Drive, c'est vraiment assez curieux parce qu'il y a des jeux européens qui sont pas zonés, il y a des jeux européens qui sont zonés, et les jeux japonais et américains, c'est exactement pareil en fait. Ils sont compatibles l'un et l'autre, il y a juste la forme des cartouches qui diffère. Et donc pour la Nomad, c'est vrai qu'elle est en 60 Hz, donc c'est le gros problème du 60 Hz. Et pour faire passer les jeux européens, il faut les passer en 50 Hz, et pour pouvoir après les switcher à chaud en 60, quoi.
D'accord.
Donc voilà.
Et il y a parmi les consoles que tu as modifiées, est-ce qu'il y en a une justement, une ou plusieurs, qui t'avait posé plus problème que d'autres au niveau des modifications techniques?
Donc la plus dure à modifier, c'est la Super NES, parce qu'il faut toucher directement aux puces de la console, qui c'est des puces qui font vraiment.
Qui
sont toutes petites et des pattes toutes petites, et qui est vraiment la plus compliquée à réaliser. Mais oui, c'est sûr, quand j'ai commencé à rechercher une nouvelle technique pour le 32X ou même le multiméga, ça n'a pas été simple, quoi. Donc c'est vrai que j'ai galéré, et bon, maintenant je connais le truc, donc c'est plus simple, quoi.
D'accord. Et est-ce que ton travail, justement, t'as pas posé de problème juridique, parce que quand on voit, bon, Nintendo a toujours été farouche au niveau des ventes de fausses consoles sans licence, et t'as jamais eu de problème à revendre des consoles qui étaient Nintendo mais relookées?
Non, pour le moment non. Je pense pas avoir de problème juridique, parce que je fais ça à titre personnel, et c'est pas du tout pour en faire un business ou ouvrir une boutique ou faire ça à la chaîne. C'est vraiment de la pièce unique réalisée pour moi en premier, que après je peux revendre. Je revends ça comme n'importe quelle personne.
Oui, comme n'importe quelle modification que tu pourrais demander dans un magasin, poste de puce ou ça.
Ouais, voilà. Bon, eux ils ont un risque parce que c'est des boutiques, donc ils n'ont pas à faire ça, mais moi je vends ça en tant que passionné, de personne tout à fait ordinaire, donc je pense pas.
D'accord. Et personne n'a jamais eu l'idée ou n'a déjà copié ton travail en reprenant ou en se faisant passer pour toi?
Ah, c'est le gros problème, oui, c'est arrivé plusieurs fois, malheureusement. J'ai vu pas mal de... Après la première NES Zelda, j'ai vu pas mal de copies. En fait, même sur eBay, un mec qui avait copié exactement la même console que moi et qui l'a revendu sur eBay pour l'argent, quoi.
Mais qu'il avait réalisé lui-même après, comme... Ouais. C'est-à-dire qu'il avait pris la photo de ce que tu avais fait et il a essayé de la reproduire pour la vendre.
Voilà, en fait, il l'a reproduite au niveau des teintes de couleurs. Il n'avait pas fait la découpe. Mais il a vendu ça comme NES Zelda sur eBay, voilà, NES Zelda. Ça s'est vendu, ça s'est pas vendu très cher parce qu'elle était très mal réalisée. Mais ça s'est vendu, ouais. Mais il y en a eu plusieurs, des NES Zelda. Bon, des gens qui ont fait ça pour eux. Tant qu'ils le font pour eux, moi ça me dérange pas. Parce que bon, ils le font pour eux, ça reste pour eux, ça me gêne pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui en font maintenant du business, et on en voit de plus en plus sur eBay des mecs qui ont customisé leur console pour les revendre ou machin. Ça arrive assez fréquemment, quoi.
Donc maintenant qu'on a abordé la partie des modifications, on va parler plus en détail, quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas forcément de toi, donc c'est les jeux et le rétro, puisque tu dis que ça fait au moins 5 ans que tu es dans le rétro gaming. Tu joues à quoi en jeu rétro? d'habitude comme type de jeu, style de jeu ou tes jeux préférés?
J'aime bien le shoot'em up, j'aime bien le beat'em all aussi, mais je suis un peu ouvert à vraiment tout et je fais essentiellement du NES, Super NES et Mega Drive quoi, en rétro. Sinon, je suis vraiment ouvert à tout type de jeu, que ça va du Mario Kart à n'importe quel jeu, quoi. C'est au gré de mes envies, quoi.
D'accord. Donc, on a vu que la NES était une console rétro que tu affectionnais, mais est-ce que parmi justement les autres consoles rétro que tu as ou que tu n'as pas, il y en a d'autres que tu préfères?
Ouais, c'est vrai que la NES, c'est vraiment ma console de prédilection. C'est la console qui était à la mode quand j'étais môme, mais j'ai des souvenirs mémorables de la NES. Et c'est vrai que j'aime bien, au niveau du système, j'aime bien la Mega Drive, qui est vraiment une console pour moi qui est géniale. Et oui, la Super NES aussi, qui est vraiment pas mal. Pas mal. Moi, j'ai pas eu la Super NES, donc c'est vrai que j'ai moins d'affection pour cette console, mais qui est une console vraiment très bien. Quoi.
Et tu l'as maintenant?
Maintenant, je l'ai en... j'ai des colonnes de Super NES, j'ai ce qu'il faut, quoi.
D'accord. Et donc, sur les, il y a des consoles en fait rétro que tu n'as jamais eu et qui t'intéresseraient de découvrir maintenant.
Maintenant, c'est vrai que quand j'ai commencé le rétro gaming, c'était vraiment par hasard. J'ai rejoint un Sonic et puis je suis reparti dans le trip rétro gaming. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bon, j'ai un peu touché à tous les systèmes et il n'y a plus vraiment de trucs qui me font envie parce que j'ai touché à tout, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'au début, il y avait des systèmes qui étaient obscurs. Bon, là, je suis en train de vraiment de finir. Je me mets à la NEC, petit à petit, je me mets à la NEC. C'est vrai que je découvre un peu le système. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, pour moi, la Neo Geo, c'était complètement un monde inaccessible, quoi.
Comme maintenant les prix ont bien baissé, c'est vrai qu'on peut s'en offrir une.
Voilà.
Problème.
Voilà.
Et justement, parce que tu modifies, donc tu t'intéresses surtout aux consoles, mais pour tout ce qui était micro et arcade, ça te fait pas envie d'en avoir?
Ça me ferait très envie d'en avoir, mais c'est vrai que c'est des systèmes vraiment compliqués. Et il faut avoir de la place, il faut avoir du temps, de l'argent. Et l'arcade, bah, je m'y mets un petit peu, petit à petit, quoi. J'ai commencé par une AES, bon, j'ai possibilité de toucher à de la MVS de temps en temps, mais je vais m'y mettre petit à petit, doucement, quoi.
Les consoles normales restent en fait plus simples à aborder, quoi.
Voilà, pour moi c'est plus simple, c'est vraiment le truc qu'on trouve assez facilement et, que j'avais quand j'étais môme. Moi, j'ai pas trop joué à l'arcade, bon, j'ai des souvenirs de salles d'arcade dans mon enfance, mais c'est vrai que...
Ça t'a pas marqué plus que ça, quoi.
Non, pas vraiment.
Dire que rejouer à Metal Slug, ça te laisse un petit peu indifférent?
Bah, Metal Slug, ouais, j'ai pas du tout connu ça quand j'étais petit. Metal Slug, bon, c'est un excellent jeu, moi j'adore jouer à Metal Slug, mais c'est des jeux que j'ai découvert en retard, quoi.
Donc, ouais, c'est pas pareil. On associe souvent justement le rétro gaming au côté nostalgique, mais pour toi, c'est... Est-ce que c'est un rétro gaming nostalgique ou c'est plus par intérêt pour les jeux finalement?
Ouais, c'est... Disons que moi je suis nostalgique un peu de tout. Moi je suis nostalgique des années fin 80, début 90. J'aime vraiment bien cette époque. J'aime beaucoup le design 80. C'est vraiment quelque chose de bien carré comme j'aime bien, quoi. Et ouais, je suis un peu nostalgique de cette époque et c'est vrai que même au niveau automobile ou n'importe quoi,
ça se limite pas qu'aux jeux vidéo finalement, là.
Ouais, voilà, moi je suis vraiment nostalgique, je serais prêt à acheter une 205 GTI, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment un mode de vie pour moi, quoi.
D'accord. Le rétro gaming, les éditeurs commencent à intégrer cette notion dans leur stratégie marketing actuelle, puisqu'ils ont tendance à réchauffer pas mal de jeux, à rééditer en façon en 3D. On peut notamment citer l'exemple des NES Classics, qui étaient des rééditions de jeux de NES sur GBA pour 20€. Il y a Sega qui a frappé avec ses Sega Ages sur PS2, qu'elle a bien vendu une bonne vingtaine de volets. tu préfères finalement quoi? Acheter une réédition d'un jeu Outrun par exemple, tu préfères te le racheter en version rééditée et y jouer dans sa édition remasterisée, ou tu préfères acheter la vieille cartouche d'origine et jouer finalement sur une console qui a 20 ans?
Bah en fait, moi je préfère 100 fois acheter de la vieille cartouche, c'est sûr. Mais moi je trouve ça abusé de mettre une trentaine d'euros dans un TV pad ou un truc comme ça pour jouer à des jeux qu'on peut trouver facilement sur internet, ou même si on se lève de bonne heure, envie de grogner, pour 2-3 euros on peut se faire quelques jeux quoi. Et dépenser 30 euros dans une manette réédition NES ou Zelda ou machin ou Sega ou... Non, moi je ferais pas quoi.
D'ailleurs, il me semble que t'en avais modifié une manette comme ça.
Ouais, on m'avait filé une Sega. C'était la Sega Mega Drive, la toute petite.
Et avec plusieurs jeux intégrés dedans.
Avec plusieurs jeux intégrés dedans, bon, on me l'a donné. Et j'ai voulu mettre un slot en fait, parce que c'est le système Mega Drive et on peut mettre un slot en fait.
Il y a dedans, à l'intérieur, il y a l'ouverture déjà prévue pour.
Non, il n'y a pas l'ouverture en fait, mais.
Enfin, je veux dire sur la carte.
Disons qu'il y a le système sur la carte et il y a une puce avec les jeux intégrés. Il suffit d'enlever la puce et de faire un câblage. Bon, c'est.
Bon, c'est du bricolage.
C'est 2 jours de boulot pour tout câbler, mais si on câble bien sur le slot de Mega Drive, on arrive à jouer aux jeux cartouches, quoi.
D'accord. Ils ont vraiment simplifié. Ils ont mis une Mega Drive miniature.
Voilà, ils ont vraiment miniaturisé la Mega Drive et c'est une Mega Drive quoi, miniature quoi.
D'accord. Et est-ce que pour toi l'argument rétro des consoles nouvelle génération, puisque en plus des rééditions de jeux que font les éditeurs, maintenant ils proposent carrément ou proposeront à l'avenir de vraiment directement récupérer les jeux originaux comme sur la Wii avec la Virtual Console, avec la PS3 où il est question justement, mais en tout cas d'émulateurs pour les jeux PS2, PlayStation 1, parce qu'à priori il n'y a que ça. Et après aussi sur Xbox Live où tu peux télécharger, là dernièrement il y a Street Fighter 2 qui était sorti, qui a fait partie des meilleures ventes justement du Xbox Live. Est-ce que toi cet argument de pouvoir récupérer d'une manière ou d'une autre des jeux rétro 100% originaux sur ces consoles serait un argument pour acheter ces consoles?
Non, pas du tout pour moi, parce que j'estime qu'une console nouvelle génération doit proposer des nouveautés et des innovations techniques, c'est surtout ça en fait. Et récupérer des vieux jeux pour jouer sur la nouvelle console, je trouve ça complètement ridicule. Et vaut mieux se prendre une vieille NES avec Mario Bros que de télécharger Mario Bros sur Wii, quoi. Je trouve ça complètement stupide, quoi.
Et pour un jeune qui a 15 ans aujourd'hui, qui a jamais une NES et qui achèterait le jeu, t'en penserais quoi?
Je pense qu'un jeune qui a 15 ans aujourd'hui aurait du mal à se mettre à... Bon, peut-être que Mario Bros, il pourrait s'y mettre parce que c'est un jeu intemporel. Mais c'est vrai que les jeux rétro, ça s'adresse plus à un public connaisseur
et averti,
qui ont baigné dans ce milieu-là depuis tout petit. Et c'est vrai que je pense que la nouvelle génération n'est pas du tout préparée à jouer aux jeux qui ont déjà 20 ans, quoi.
D'accord. Et finalement, c'était mieux avant les jeux ou pas?
Oui, c'était mieux avant, ouais, exactement. Donc là... Le gameplay est devenu tellement facile maintenant qu'il y a des tonnes d'aides, on n'a même plus le plaisir de chercher, tout nous tombe sous le nez directement, il y a des continues à l'infini. Enfin.
Et pour toi ça s'arrête quand, cette limite entre c'était rétro ou c'est plus rétro?
Bah, le rétro va continuer à avancer, disons que dans 10 ans la PlayStation 3 ça sera rétro quoi. Mais ça va continuer à avancer, donc là pour l'instant le rétro, bon, ça va du tout début. Pour moi ça va jusqu'à la Saturn, N64, enfin cette période là. Donc la PlayStation 1 commence à rentrer dans le rétro pour moi quoi.
D'accord. Donc pour le rétro, il y a un truc qui est. Enfin, il y a un système qui est assez connu, c'est l'émulation justement, qui permet par le biais d'un PC, d'un téléphone, ou même de consoles récentes comme les PSP et compagnie, de faire tourner les jeux d'avant qu'on peut récupérer en fait, qu'on télécharge, et ça permet d'y jouer sans avoir le support original. Toi t'en penses quoi, l'émulation?
Bah, l'émulation pour moi c'est vraiment pas un truc que je fais, parce que j'aime jouer aux jeux originaux, mais c'est vrai que l'émulation pour certains jeux, je dis bien certains parce que jouer à Mario sur l'émulation c'est con quoi, Mario tu le trouves à 1€, bon, bref. Mais jouer à l'émulation, c'est vrai que jouer aux jeux d'arcade, par exemple, pour jouer à Garou, Mark of the Wolf, claquer 400€ dans une cartouche AES, c'est vraiment abusif, quoi. Donc c'est vrai que là, pour ça, pour ce côté-là, c'est bien. Mais l'émulation, moi, je fais très peu, et donc c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse, quoi.
D'accord. Parce que l'émulation, ce qu'on lui reproche surtout au début, bon, outre le fait que on joue pas sur un support original, même si le but c'est quand même de tendre à reproduire le plus fidèlement possible ce support, il y a le côté légalité qui est pas respecté. Est-ce que toi tu aurais autre chose à reprocher à l'émulation justement?
C'est vrai que l'émulation, c'est le gros problème maintenant, c'est la légalité, quoi. Donc qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est pas légal? Est-ce que les jeux qui ont 30 ans rentrent dans le domaine public? Et donc c'est le vrai problème, et il n'y a pas de loi vraiment là-dessus. Donc c'est vraiment le gros problème de l'émulation, c'est la légalité. Après, qu'est-ce que je pourrais reprocher à l'émulation? Pas grand-chose, parce qu'en fait, l'émulation c'est vraiment fait par des passionnés, c'est pas vraiment un truc fait par les grosses majors, et donc
pourtant certains sont essayés avec Guiri notamment, qui était un émulateur qui était développé par une société tierce et qui a finalement été racheté par Sega et qui avait développé son propre émulateur Saturn finalement. Et Blim qui avait reçu un procès à l'époque en tant qu'émulateur PlayStation, quoi.
Ouais, l'émulation c'est vraiment un gros souci, et on sait pas trop où on s'engage quand on commence l'émulation, quoi.
D'accord. D'ailleurs, l'émulation finalement, en plus du côté rétro, va rentrer elle aussi de plus en plus dans le modèle économique des consoles de génération, puisqu'avec le Virtual Console, on pourra légalement télécharger des jeux, des ROM, quoi, des ROM de jeux NES, Super NES, N64. Sur PSP, il y aura un émulateur officiel de jeux PlayStation, donc tu pourras télécharger légalement ton jeu PlayStation qui a 15 ans pour quelques dollars. Toi, est-ce que tu seras intéressé justement par cette émulation finalement facile qui est donnée en tant que fonctionnalité supplémentaire aux nouvelles consoles? Tu n'as pas l'occasion par exemple d'acheter un jeu et il le ressorte sur une console récente. Est-ce que tu serais tenté, toi, de l'acheter?
Non, moi pas du tout. C'est pas du tout mon trip, moi, comme je te dis, mais les nouvelles consoles, pour moi, c'est pour jouer à des jeux de nouvelle génération avec des nouveaux accessoires, avec des nouveautés, et jouer aux anciens jeux. Je pense que tout ça, c'est fait pour faire du business de la part de Nintendo ou de Sony. C'est vraiment du business. Comme ils savent que ça marche, ils savent que des gens seront intéressés et vont télécharger. Mais moi, je préférerais toujours 100 fois brancher ma vieille PlayStation et jouer à un jeu PlayStation de l'époque.
Que tu auras gentiment gravé.
Que... Non, parce que je fais même pas de jeu. Moi, je fais vraiment pas de copie ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, je prends du temps le dimanche matin d'aller en vide-grenier ou en brocante pour trouver des jeux. Ou même sur eBay. eBay, c'est vraiment génial pour trouver des jeux, quoi.
Et cette année, t'as pas eu de mal à trouver des jeux dans les vide-greniers?
Ça commence à être tendu, parce que les stocks sont pas infinis. Il y a de plus en plus d'intéressés, et donc ça part assez vite, quoi. Mais on arrive encore à en trouver assez facilement. Hein.
D'accord. Si tu as une opinion là-dessus, est-ce que tu as un avis sur les sites d'émulation en général? Est-ce que tu leur trouves des qualités? Est-ce que tu leur trouves des défauts?
Oui, il y a certains sites qui font du très bon travail sur l'émulation, et Immunova par exemple.
Bon, on t'a payé pour dire ça.
Un peu. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sites qui font du très bon boulot, il y a des sites qui sont un peu moins professionnels et qui font du travail de moins bonne qualité, mais il y a des sites qui regroupent vraiment des ROM assez intéressantes et qui sont vraiment, vraiment bien, quoi. Après, leurs défauts, bon, j'espère que ça leur tombera pas sur le dos, des problèmes de législation ou de trucs comme ça, mais ils prennent du risque en faisant de l'émulation, mais...
Jusqu'à présent, ça a toujours été finalement plus ou moins toléré à partir du moment où les systèmes étaient plus exploités commercialement, quoi. Et récemment, on a eu justement une remontée des actions, enfin en tout cas des pressions judiciaires pour retirer par exemple des ROM N64 de certains sites. Donc, c'est quelque chose qui évoluera. Et est-ce que tu joues finalement sur des consoles modernes, des plus récentes que des PlayStation 2, enfin plus récentes que des PlayStation tout court, quoi. Dreamcast, PlayStation 2, ben, Xbox.
Disons que j'ai un peu touché à tout. C'est vrai que bon, je vais pas m'en cacher, j'ai une PlayStation 2 comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Mais on est obligé d'en avoir une, hein. Ouais, c'est vrai que j'ai touché à tout, Dreamcast, GameCube. La GameCube, c'est une console pour moi qui est formidable, quoi, mais qui a pas été utilisée à son potentiel maximum, quoi.
C'est ce que beaucoup de gens lui reprochent, d'ailleurs.
Voilà, d'ailleurs, c'est le problème, quoi.
Et d'ailleurs, t'en parlais tout à l'heure que justement les jeux maintenant étaient très faciles, linéaires et dirigistes. Tu as vu comment les jeux ont évolué, t'as vu que, enfin, beaucoup de gens ont constaté que la difficulté avait carrément baissé. Comment est-ce que tu vis ce passage de jeux qui, au début, le but était qu'ils soient très durs pour qu'on puisse être content de les réussir, alors que maintenant on est dans une optique où quand on achète un jeu, il faut pouvoir le terminer.
Ouais. Bah, je pense qu'on a maintenant un souci de rendement. Et faut vendre du jeu, quoi. Donc à l'époque, il y a 20 ans, un gamin, il avait un jeu pour son anniversaire et peut-être deux jeux pour Noël. Donc il avait trois jeux dans l'année. Et donc il avait que ces trois jeux à se mettre sous la dent, quoi. Maintenant, on achète un jeu comme on va acheter un CD ou un DVD, comme une boîte de conserve, quoi. Donc on va n'importe où, on achète des jeux. C'est devenu des produits de grande consommation. Et je pense que dans cette optique-là, c'est bien pour les compagnies de faire des jeux faciles qui permettent aux gens de les terminer et pouvoir passer directement sur un autre jeu. Donc ça leur permet de vendre des jeux, mais c'est vrai que pour moi, maintenant, les jeux plus simples, ça a des bons et des mauvais côtés, parce que bon, ça a des bons côtés, ça permet de se faire plaisir et de jouer rapidement. Maintenant on n'a plus vraiment le temps de se mettre vraiment dans un jeu. Bon, je vois, il y a des jeux comme les GTA et tout ça, pour les finir il faut mettre 6 mois, on n'a pas que ça à faire, quoi. Donc c'est sûr que maintenant il y a des jeux vraiment assez rapides et qu'on finit en 2-3 jours facilement, quoi.
Et tu as une préférence parmi ces jeux non rétro, donc PlayStation 2 et Xbox et compagnie?
Ah bah, il y a toujours le Zelda Wind Waker qui m'a bien plu. C'est toujours l'optique de Nintendo de faire des jeux qui changent. Mais oui, les jeux qui me plaisent bien à l'heure actuelle, je sais pas du tout, c'est vraiment un peu de tout.
Il
n'y
en a pas beaucoup qui t'ont réellement marqué.
Qui m'ont réellement marqué Non, il y a aucun jeu qui m'a réellement marqué. Quand je compare un jeu d'aujourd'hui à un jeu rétro, bon, ça n'a rien à voir, quoi.
D'accord. Et est-ce que tu as un jeu récent particulier qui se démarque par sa médiocrité?
Un jeu qui se démarque par sa médiocrité. Il y en a tellement. Il y en a tellement, malheureusement. Je sais pas, parce que je joue pas à tous les jeux. J'essaye de choisir. Moi, j'ai pas un budget énorme pour acheter des jeux récents. Je préfère mettre dans du rétro ou même de la Neo Geo, quoi. Mais un jeu non rétro que j'aurais acheté et qui m'aurait fait horreur. Voyons voir. C'est une question dure, hein.
Ouais, c'est une question rouge pour 5 points.
Ouais, putain.
C'est le voyage où c'est fait ou t'as rien?
Disons que je l'ai choisi tellement bien que...
Finalement, t'as jamais été déçu parce que t'as acheté.
Voilà. D'accord. Ouais, en gros, c'est ça. Bon, il y a des jeux sur... PacPix sur DS qui m'a vraiment pas plu, quoi.
Trop dur, pas assez...
Non, le gameplay, disons que c'est original, c'est sûr. Mais non, j'ai pas réussi à me plonger dedans et non, ça m'a pas plu, quoi.
D'accord. Et entre les consoles de nouvelle génération qui sortent, Xbox 360, PS3, Wii, on attend un gros choc. tu as une idée de ce que donnera le pronostic au niveau qui gagnera, qui perdra, ou qui gagne, qui seront les gagnants, qui seront les perdants?
Je pense que ils ont tous les trois leur chance. Nintendo a un gros coup à jouer avec sa Wii, ça c'est certain. Et ils ont de grandes chances de prendre toutes les parts de marché s'ils arrivent à bien faire un bon démarrage, quoi. Faut qu'ils fassent un bon démarrage. Après, la PS3, pour moi, c'est pas une console que je prendrais, parce que c'est vrai que d'une, trop chère. Deux, Sony, j'en ai soupé, quoi. Les consoles qui tombent en panne au bout de 6 mois, ça va, quoi.
Tu avais vécu ça?
Oui et non, parce que bon, c'est vrai que bon, les PlayStation, en trouver une qui marche de nos jours, c'est pas possible. Les PS2, elles commencent à toutes crever, la mienne aussi. Mais je pense qu'ils vont en vendre parce que c'est PlayStation et tous les gamers qui sont pas vraiment hardcore gamers ou machin, ils vont sauter dessus pour pouvoir mettre déjà leur jeu PS2 et ensuite parce que c'est PlayStation, quoi. Donc ils ont une grosse image et ils en vendront. Après, la Xbox 360, c'est là, elle est déjà sortie. J'ai peur qu'elle soit un peu faiblarde maintenant. Bon, elle a déjà 6 mois. Quand les nouvelles consoles vont sortir, elle va être un peu à la ramasse, quoi. Mais disons que là, pour l'instant, ils font leurs bénéfices, ils sont les seuls sur le marché. Donc ils vendent des jeux, ils vendent des jeux, ils vendent des consoles. Mais j'ai peur que leur vente se casse la gueule quand la Wii et la PS3 vont sortir, quoi.
D'accord. Et pour toi, au niveau du futur, est-ce que tu aurais une idée d'une console parfaite qui pourrait sortir, qui te conviendrait ?
Une console parfaite, ça serait d'une une console révolutionnaire avec vraiment des choses innovantes. Bon, moi je pense surtout à la Wii. Quand je vois la télécommande, c'est vraiment innovant, quoi. C'est un nouveau mode de jeu, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver, je sais pas.
T'as pas d'idée, tu attends de voir si ça sortira, quoi.
Bah, peut-être un truc directement implanté dans le cerveau, j'en sais rien. Tu commanderais par la pensée, mais
c'est un peu le concept de réalité virtuelle qui faisait tant voilà, débat à une époque.
Voilà, c'est bon, peut-être avec autre chose qu'avec un gros casque sur la tête, quoi. Mais
Virtual Boy 2,
peut-être, qui sait. Ils l'ont peut-être sorti, le Virtual Boy. De toute façon, ils l'ont sorti trop en avance. C'était trop en avance sur leur temps, donc c'est pour ça que ça a pas fonctionné. C'est pareil pour Sega, quand ils ont sorti la Dreamcast, elle écrasait tout le monde, quoi. Mais ça n'a pas fonctionné parce que c'était trop révolutionnaire pour l'époque, quoi. Donc le temps va nous dire ce qu'il y aura, et puis bon, bah, on verra bien, hein, de toute façon.
D'accord, bon, en tout cas je te remercie.
Bah, de rien, merci à toi.